Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu, Louis Momem, non Louis Amen, le chef propriétaire du restaurant Le Momem. Ça sent bon les cèpes. Parce que y en a qui sont en train de fricasser,
voilà,
on les
poêle,
on ne les fricasse pas. Et si j'ai ces deux magnifiques maniques, c'est parce qu'il y a les gnocchis au four. Ça, les non, fameux. Voilà, ils sont parfaits, voilà. Ils sont à point.
Oui, tout à fait.
Donc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça?
Eh bien, on va en faire une jolie cassolette, petite fricassée de gnocchi, cèpe, figue. Voilà.
On met tout ça là-dedans et on sert à même la cassolette.
Ouais, on sert dans ces cassolettes au restaurant aussi de temps en temps. Donc,
ah ouais,
enfin, surtout le midi. Donc,
ça, les clients aiment bien les cassolettes.
Ouais, carrément.
C'est vrai?
Ouais, ils sont friands de ça.
Ils sont friands des cassolettes. Merci beaucoup, cher Louis.
Avec
à
plaisir.
Tout à l'heure pour le dîner de.
On me garde
de
mes moufles.
Je garde mes moufles, mais je peux pas tourner mes fiches avec. Alors attention, c'est parti. Regardez, hop, en direct. Le 9 décembre 1964, Albert Reissner présente aux téléspectateurs de l'ORTF une jeune chanteuse dont c'est le premier passage à la télévision et qui a l'air d'avoir 17 ans.
Et voici une jeune nouvelle tête française, celle-là. Elle se nomme, elle a 17 ans et c'est son premier passage à la télévision, elle se nomme Chantal Goya. À vous, Chantal. Ouais.
Depuis qu'il a eu son bac, quelle chance, ses parents lui ont acheté une voiture avec laquelle on s'amuse bien, je vous jure.
En réalité, ce jour-là, Chantal Goya a 22 ans, c'est en 1964, mais c'est l'histoire de sa vie, ne pas faire son âge. Et fêter aujourd'hui, comme si de rien n'était, ses 80 ans, c'est plus de 50 ans de carrière, 58 pour être précis, et c'est 40 millions de disques vendus. Chantal Goya, et ce sera notre invité. Bonsoir. Chantal, voilà, c'est le titre de cet album Club Grenadine où des enfants reprennent.
Oui, ils sont très mignons.
Ils sont très mignons.
C'est les enfants de mon spectacle.
Ben voilà, et ce sont eux qui chantent officiellement, donc on célèbre avec vous un anniversaire. Oui, mais en réalité, vous ne fêtez jamais ce genre d'événement.
Comme ma mère et ma grand-mère. On avance dans la vie et l'anniversaire. On se demande même si je suis née ce jour-là, parce que je suis en Indochine, mais on ne me l'a pas dit que c'était dans ces années-là. Il faut peut-être que je regarde un jour, parce que ils sont trompés.
Il faut vérifier, ils se sont trompés, exactement.
Oui, non, déjà, on oublie les anniversaires de mariage, qui sont importants pour moi.
Vous oubliez tout.
Le 25 février, on dit « Ah, oh, c'était... Oh, bon, on l'a oublié, c'est fini.
» Ouais, c'est comme ça que vous faites pas votre âge.
Oui, déjà à l'époque, quand j'avais 12 ans, on disait que j'avais 6 ans, qu'est-ce qu'elle est intelligente pour ses 6 ans, j'en avais 12, et puis au fur et à mesure, hein, elle est où la maman? Je dis, mais c'est moi la maman, alors je croyais que c'était la nounou, enfin tout est comme ça.
De toute façon, votre âge, c'est les enfants qui en décident?
Exactement, quand je demande aux enfants quel âge j'ai, ils me disent, t'as peut-être 40 ans, puis je dis, voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Et ça n'a jamais été une idée fixe dans ma tête, moi je m'en fiche.
Oui, vous vivez sans horloge, sans montre.
Je sais à peu près l'heure qu'il est.
Il est quelle heure, Chantal?
8h03.
Waouh, à peu près. Ça.
Il est précisément 20h03. Alors là, vous êtes très forte.
Vous voyez, je ne sais pas. Hein.
Mais ce qui est très frappant quand on regarde ces images de 64, c'est que vous n'avez pas changé, hein. Ni la frange, ni le look, ni même votre voix.
C'est la voix, oui, parce que je remarque que mes chansons, quand je chante avec les enfants, on a gardé les mêmes orchestrations, enfin les mêmes bandes, on va dire, le même son, et j'ai pas baissé. Ben forcément, je fume pas, je bois pas, je me couche à 8h, et maintenant à 10h avec les poules, j'habite à la campagne, donc voilà. C'est... Non, mais j'ai toujours été comme ça. Hein.
Vous êtes restée une enfant, et vous êtes pas prête d'arrêter.
Je suis une enfant, j'ai une âme d'enfant, mais je suis pas une enfant dans la tête, je suis une vraie adulte. Hein. C'est ça, c'est ce qui désarçonne les gens, c'est que moi, je suis très, très, très les pieds sur terre, mais par contre, je rêve avec mon âme d'enfant.
Ce qu'on célèbre ce soir, c'est donc votre éternelle jeunesse, votre énergie incroyable, un album, deux spectacles, parce qu'il y a encore quelques dates pour le soulier qui vole.
Du soulier qui vole.
Et sur
Paris.
La route enchantée, ça c'est à partir du 23 octobre prochain. Vous restez avec nous, on vous garde jusqu'à 20h55.
Merci.
Voilà, vous coucherez plus tard ce soir.
C'est pas grave. À Paris, c'est différent.
Je vous l'annonce, c'est la bamboche avec Chantal ce soir sur le plateau. C'est à vous. Tout de suite, c'est la chanson de Sandrine. Sandrine Saroche, tous les mercredis dans C'est à vous.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes. Et bonsoir Chantal Goya.
Bonsoir.
Ce soir, je vous préviens, je ne m'adresse pas à la chanteuse, je ne m'adresse pas à la comédienne, non. Je m'adresse à la militante, à l'artiste engagée, à la femme qui a toujours su rester debout. Assis, debout. Dès 1977, souvenez-vous, entourée de vos sœurs, Elisabeth Badinter, Gisèle Halimi, Simone Veil, vous déclarez à la tribune du Palais des Congrès, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Si ça, c'est pas un appel à abattre le patriarcat. Si ça, c'est pas un appel à démembrer les hordes de prédateurs qui s'insinuent par la force au plus profond de notre sororité inclusive, à mettre fin par la lutte à la masculinité toxique, à la culture de domination, d'oppression et de viol que nous ont inculqué les institutions millénaires d'un système dictatorial de binarité contre nature. Vu ? C'est
oui,
clair pour tout le monde.
On a peur là.
Merci Chantal Goya, merci du fond du cœur pour ce que, tout ce que vous avez fait pour la cause des femmes ce matin. Un lapin a tué un chasseur. Vous voyez, je connais toute votre œuvre et je sais tout debout, jusqu'au nom des membres de votre famille. Papa Millepattes, le paternel phallocrate, Bécassine, votre chère cousine et même votre lointain cousin des îles, Philippe Laville.
Voilà.
Vous confirmez, Chantal, hein, vous êtes donc cousine avec le gars qui tape sur les bambous. Et oui, alors, sur une chanson du merveilleux Philippe Laville, laissez-moi vous raconter l'histoire, la merveilleuse histoire de notre sœur justicière d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. Elle vivait sa vie d'écolo, pas d'eau, pas d'éclairage. Elle était professeure d'éco et de covoiturage. Elle enrageait de voir des zizi partout dans les parties. C'est alors qu'une consoeur de Sciences Po lui finit ses quelques mots. Pape sur Julien Bayou, ça te fera du bien. Tape sur le barbecue du camarade Fabien. Fais bouffer du tofu à ces carnivoriens. Arrache-leur le bambou et les poils pubiens. Tape sur Julien Bayou et tape sur le rouquin. Tape sur le Scooby-Doo de Gérald Darmanin. Fais-leur passer le goût comme à Denis Baupin. Quoi tout gauche, on s'en fout, c'est qui le prochain? Allez avec moi! La 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 la!
Tape sur Julien Bayou et tape sur le rouquin.
La 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 la! Tape sur le Scooby-Doo de Gérald Darmanin. La 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 la! Arrache-leur le bambou et les poils préviens. Un grand merci à vous, c'est déjà la fin.
Bravo Sandrine Saroche! L'actu venue en chanson, c'est tous les matins. C'est à vous. Merci, chère Sandrine.
Merci.
Tout de suite, l'œil de Pierre.
Alors, dans un autre genre, c'est aujourd'hui la Journée internationale pour le droit à l'avortement. Cette journée intervient moins de 4 mois après les décisions tellement conservatrices de la Cour suprême des États-Unis. Beaucoup d'appels en France pour dire, comme Simone de Beauvoir en son temps, qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce droit instauré en France en 1975 par la loi Veil peut être remis en cause demain, comme en Italie, peut-être, comme aux États-Unis, déjà. Au Sénat, par exemple, une proposition d'inscrire cette loi dans la Constitution sera débattue bientôt. Il y a quelques jours est sorti en DVD un documentaire de 1973 dont on se souvient tous les deux, Chantal, qui fut et reste un véritable manifeste pour le droit à l'IVG. Son titre est « Histoire d'A ». Histoire avec un S signé Marielle Issartel et Charles Belmont. Histoire avec un S car ce film, à la forme très intelligente, donne à voir de multiples réunions autour des médecins qui pratiquaient l'avortement par aspiration contre la loi de l'époque et aussi des réunions autour du planning familial.
Le problème de l'avortement, c'est pas un problème où il faut des replâtrages et des gens qui parce qu'ils sont motivés, essayent de trouver des solutions pour d'autres. Et ça, c'est très, très important que vous le compreniez. La France, en matière d'avortement, elle en est au Moyen-Âge. Et il est évident que si elle a parlé de ce qu'on a fait, si le journal du dimanche a parlé de ce qu'on a fait, c'est pas pour ça que le problème de l'avortement est en train d'éclater ici. Au contraire, on sait qu'il y a des gens qui pratiquent l'avortement et qu'est-ce qu'on attend d'eux? On attend qu'ils s'essoufflent. Quand ils seront essoufflés, ça retombera. Et si ici, et principalement ici, parce que vous connaissez le problème, vous le vivez, vous le subissez, on n'essaie pas de faire quelque chose pour faire pression, eh bien la situation ne changera pas. La contraception, elle est arrivée en France, tant bien que mal, elle n'est pas encore acceptée, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui l'ont imposé. L'avortement, si on ne l'impose pas, on ne l'aura pas.
Cette femme s'exprime dans ce qu'on appelait la permanence centrale à Paris, où l'on venait s'informer, débattre autour de la contraception, de l'avortement, selon la nouvelle loi de la nouvelle méthode Karman. Des débats donc en 73, alors que des milliers de femmes avortaient dans des conditions douloureuses, dangereuses et illégales, et pendant que d'autres se retrouvaient dans des difficultés inouïes pour n'avoir rien pu faire malgré leur volonté.
Je m'appelle Edith, j'ai 20 ans, je suis mariée. J'ai un enfant de 7 mois et j'attends le deuxième que je suis enceinte de 3 mois. Mon mari est à l'armée. Je gagne 42 000 francs par mois et mon mari me dit de faire des économies.
Et qu'est-ce que tu vas faire avec ton bébé dans le ventre?
Je tiens pas à le garder.
Et comment tu vas faire?
De toute façon, si je trouve personne pour le faire, moi je le fais moi-même.
Le film est en noir et blanc et s'ouvre sur un avortement filmé sans détour, d'où le noir et blanc pour que le sang heurte moins le spectateur. Le groupe Information Santé, un groupe de militants et soignants, avait demandé aux deux réalisateurs de filmer cet acte médical encore interdit. Ils en ont fait finalement un long métrage pour une bouchée de pain. L'affiche a été retoquée à l'époque pour mauvais goût et sein agressif. C'est dans le texte de la décision. Puis le film sera interdit par le ministre des Affaires culturelles de l'époque, Maurice Druon, futur secrétaire perpétuel de l'Académie française. On retrouve donc Histoire d'A en DVD depuis quelques jours, augmenté de quelques bonus passionnants. Il sera aussi dans quelques salles à Paris. Ça nous parle, ces problématiques de 73 qui n'ont pas changé ou qui reviennent au premier plan. Des témoignages laissent songeurs. Vous allez entendre la voix de cet homme, dérouté par la contraception et la liberté des femmes qu'elle engendre. Voix off sur des images bien choisies de boulistes que des hommes pendant que leurs femmes sont à la maison.
J'ai peur qu'elle me trompe parce que je connais pas mal de femmes ou de filles qui prennent la pilule et qui sont libres d'avoir des rapports avec n'importe qui, de flirter avec n'importe qui.
Eh oui. Le DVD vient donc de sortir et je me souviens que une année avant, vous jouiez dans Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard, et le film avait été interdit au moins de 18 ans parce que vous y parliez d'avortement et de beaucoup de choses.
Oui. Ben oui, puis Godard nous faisait dire des choses épouvantables, d'autant plus que j'étais enceinte de 5 mois, que personne ne savait, même moi je savais à peine. Et puis bon, ben voilà, ça m'a valu le prix d'interprétation parce que ce que je ressentais en moi était tellement visible dans le film que quelle belle comédienne, mais personne n'a su que j'étais enceinte, j'attendais un bébé, que je ne voulais pas faire ce qu'il me disait. Par contre, c'était le contraire.
On va en reparler de cette expérience avec Godard dans un instant. Cher Chantal, pour l'instant, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
D'accord.
Lancé à plus de 20 000 km/h, le vaisseau de la NASA équipé d'une caméra se rapproche de l'astéroïde.
3, 2, 1.
Peu à peu se dessinent des reliefs, des roches et des cratères, jusqu'à la coupure du signal vidéo, qui signifie que l'impact a bien eu lieu. La mission avait pour but de tester notre capacité à dévier la course d'un astéroïde, dans l'hypothèse d'une menace sur la Terre.
C'est un truc de ouf, c'est oufissisme.
Ces images tournées par l'armée danoise au-dessus de la mer Baltique. On y voit des fuites spectaculaires de gaz sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 au large du Danemark. De vastes bouillonnements de 200 mètres à 1000 mètres de diamètre. D'où viennent ces fuites qui ont été précédées d'explosions?
Si l'on considère la complexité des attaques et la difficulté de réaliser un tel acte de sabotage, il est très probable qu'un acteur étatique soit impliqué. Et il n'y a qu'un seul acteur étatique dans la Baltique qui ait la possibilité, les capacités et la motivation réunies. Et c'est évidemment la Russie.
C'est mon job, quoi. Mettre les gens à bout. Il faut que les joueurs, psychologiquement, soient atteints.
Fini la dépendance au gaz russe. Avec le Baltic Pipe, la Pologne aura un accès direct au gaz norvégien via le Danemark.
C'est un grand jour pour la Pologne, pour le Danemark, pour la Norvège, pour toute l'Union européenne, qui renforce ainsi sa sécurité énergétique, la paix et la souveraineté.
Allez-vous attendre jusqu'à décembre pour mettre le chauffage à Matignon ou à Bercy ?
Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est
pour
19
bientôt,
degrés.
Hein. Oui, mais bah, demain, après-demain,
nous ne serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous ne vous verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé.
Laisse-moi quitter la neige avec mon maître. Je suis pas vimeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi quitter la neige avec ce gène.
La campagne de présidentielle de Valérie Pécresse dans le viseur de la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte pour, entre autres, financement illégal de campagne électorale, financement illégal de partis et prise illégale d'intérêts. Et ce, après un signalement en avril dernier de Julien Bayou, désormais ex-secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts.
Les océans sont menacés par la surpêche. Si l'on ne réduit pas la voilure, en 2050, il pourrait bien ne plus abriter de poissons sauvages. Seule la pêche responsable permettrait d'éviter cette catastrophe. C'est ce que promet le label MSC. Son joli poisson bleu vous dit sûrement quelque chose.
Et voilà !
L'ONG a saisi des images effrayantes autour d'un autre navire-usine, lui aussi certifié MSC. On y voit son filet, long de plusieurs centaines de mètres, aspirer littéralement l'océan et ses habitants. Il peut pêcher jusqu'à 200 tonnes de poissons par nuit, autant qu'un pêcheur artisanal en un an.
Ça se passe à 6000 mètres d'altitude dans un avion.
Ah, c'est génial.
Deux équipes de 4 joueurs, dont la légende du football portugais. On vient de le voir à l'image, Luis Figo.
Wow.
L'objectif, eh bien, c'était de rentrer dans le livre des records. Alors évidemment, ça fait des images spectaculaires, mais ça risque de faire bondir, sans mauvais jeu de mots, les défenseurs de l'environnement.
Ah bah oui, parce que le bilan carbone, quand on va jouer au foot là-haut, forcément, il faut que
forcément,
le moteur tourne.
Forcément, il n'est pas très bon.
Imbécile.
Imbécile heureux.
Moscou proclame une large victoire au référendum d'annexion qui avait lieu dans les provinces occupées par les Russes. Plus de 98% de oui. L'ONU a déjà fait savoir qu'il soutenait l'intégralité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières reconnues.
Les simulacres du référendum, la rhétorique nucléaire combinée avec la mobilisation des forces armées en Russie, tout cela est une grave escalade du conflit.
Voici tous les lieux où des manifestations ont eu lieu en Russie depuis jeudi dernier. Et là, toutes les attaques recensées contre des bâtiments administratifs, une contestation sans précédent. On est bien loin de la mobilisation rêvée par le Kremlin.
98 000, c'est notre chiffre du jour, et c'est le nombre d'exilés russes ayant fui leur pays pour le Kazakhstan depuis l'appel de 300 000 réservistes la semaine dernière par Vladimir Poutine. On estime que 10 000 arrivent chaque jour aussi en Géorgie. La Russie a fait savoir qu'elle ne solliciterait pas d'aide pour obtenir l'extradition des déserteurs.
Behind.
Voilà pour le vu du jour. Une carrière, c'est évidemment du talent, du travail, c'est aussi parfois un sacré coup de pouce du destin. En 1975, c'est une épidémie de grippe qui va changer la vie de Chantal Goya. Brigitte Bardot est clouée au lit. Impossible d'assurer le show des Carpentiers. Coup de téléphone de Maritier à Chantal Goya. « Ma petite chérie, j'ai Brigitte Bardot qui est grippée. Est-ce que tu peux la remplacer ?» Ce sera chose faite. Chantal chante pour la première fois « Adieu les jolis foulards », la première des 400 chansons pour enfants de son répertoire. Et toujours chantée avec la même énergie 13 ans plus tard, dans une émission spéciale qui vous était consacrée, « Le monde magique de Chantal Goya ».
Oui.
Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras, si ce n'est qu'un an. J'emporterai dans mon cœur un peu de ce pays. Vous resterez dans nos cœurs, mademoiselle aussi.
Bon, ça, c'est en 88. L'histoire avait déjà été écrite. Oui. Mais en 75, en rentrant de l'émission numéro 1 de Maritier, oui. Gilbert Carpentier.
Numéro 1 de Carlos.
Voilà, vous avez rangé votre petite robe.
Oui.
Votre petite robe, et vous vous êtes dit, bon, ben, c'est terminé, je retourne à ma vie normale.
Ben oui, j'habitais à la campagne, près de Houdan, et je me suis dit, ben maintenant, il y a un dîner ce soir pour le mime Marceau. Demain, il y a un dîner pour Vadim. Il y a pour plein de copains qui viennent. Je pense même pas au joli foulard, à l'émission de télé. J'ai rendu service, ça me faisait plaisir. Et puis Maritime m'appelle, me dit l'émission est passée, il y a 500 000 lettres qui arrivent à TF1.
500 000.
Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment je vais faire pour les lire toutes ? Alors, et là-dessus, j'ai aucune idée qu'est-ce que je dois faire. Et Maritime m'a dit, écoute, ta voix, ton physique, tout ce que tu représentes, c'est vraiment les enfants. Si j'étais toi, je continuerais. Je dis, mais comment faire ? Comment on va produire tout ça ? C'est pas possible, on n'arrive même pas à faire le toit, là, ça fuit, il y a de l'eau dans le salon. Comme, non. Et puis mon père est décédé en 1974, il m'a donné un petit peu d'argent à toute la famille. Et puis moi, il m'a dit, consacre ton argent aux enfants. Puis j'ai reproduit les jolis foulards.
Vous en avez fait un disque, oui. Ce qui n'était pas du tout facile, parce que personne n'y croyait.
C'est simple, moi j'amenais mon disque à toutes les maisons de disques, ils disaient, non mais vous rêvez, on a déjà Claude François, c'est formidable, Gérard Lenormand, mais on n'a pas de place pour les enfants. Alors j'avais Johnny qui habitait chez moi et je lui ai dit, tu vois, regarde, je le savais, je vais repartir à la campagne, je vais refaire mes potagers, inviter les copains. Et finalement, on est allé voir José Feliciano au Rex avec Jean-Jacques à minuit, parce que lui, il connaît, il se réveille à minuit. Alors j'ai dit, bon, bah, moi, je voudrais bien aller me coucher. Enfin, je suis allée avec lui et là, il m'a dit, il y a quelqu'un qui va venir, j'en suis sûre. Le disque était dans la voiture, dans un sac en plastique, c'était fini. Hein. Et puis quelqu'un est venu, effectivement, m'a dit, c'était si joli. Qui est le producteur ? Je dis, c'est moi, mais personne n'en veut. Ben, venez le matin à 7h30 et moi, je le sors à mon bureau. Moi, j'étais déjà bas à 7h moins le quart du matin. Et puis là, il était sorti, c'était le patron des disques RCA, le président François Dacla. En un an, ça fait, en un mois, pardon, en trois mois, on va dire, trois mois, ça fait 1 million de disques.
1 million de disques.
Et après, on a fait 40 millions de disques ensemble, parce que moi, je suis une fidèle et je me souviens que mon agent me disait, ça monte, il faut changer de maison de disques. J'ai dit, non, moi, je reste avec le même. Et alors, ce qui était insensé, c'est qu'il y avait dans l'équipe Mylène Farmer, qui, elle, ne voulait plus chanter. Elle chantait Maman, Adi, elle voulait plus chanter. Il y avait Woolsey qui chantait début, il y avait Souchon qui chantait Allô, Maman, Bobo, et il y avait Michel Fugain. Et il nous dit, bon, les enfants, vous êtes les 4 numéro 1 de tout le métier, mettez des tennis, on va aller à l'usine, on va amener le champagne à ceux qui emballent les disques pour Noël, et on y va. Je dis, bon, on est partis tous là-bas, on a voulu le champagne, on le servait à tout. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Même les disques sont plus là, il y a des casseroles et des poêles à la place dans les FNAC, dans les magasins, on va dire. Mais non, mais c'est dommage.
C'est dommage. L'objet.
Hein, parce que François Dacla, c'était quelqu'un qui était peut-être plus sensible que les autres. Il a senti quelque chose qui... Et je dis toujours, si je n'avais pas rencontré Jean-Jacques Debout, vous n'auriez jamais...
Et Chantal Goya.
Non, parce que moi, j'étais... Je voulais être journaliste, je ne voulais pas chanter.
C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes partie en Angleterre pour apprendre l'anglais, pour être grand reporter.
Ah oui, parce que mon père, quand j'ai passé mon bac, j'ai eu mon écrit avec mention et je ne me suis pas réveillée pour l'oral. Alors je ne vous dis pas à la maison, la scène, que ma petite fille, tout est prêt, tu pars en Angleterre, tu vas t'occuper des enfants. Et moi, je dis, c'est génial, je vais avoir ma chambre. C'est tout ce que je comptais dans ma tête, d'avoir une chambre à moi, que je partageais à Paris avec mes frères et sœurs.
Mais c'était sans compter sur la grippe de Brigitte Bardot et sans compter sur Jean-Jacques Debout qui a bien senti que vous aviez ce potentiel-là de dialogue avec les enfants.
Il a toujours su, quand il a vu une artiste, que ce soit pour Sylvie, quand il a écrit « Tous mes copains » au départ, en 63, il a toujours su qu'il y avait quelque chose d'important chez quelqu'un. Il a toujours su. Lui, il est comme un médium qui ressent à l'intérieur des gens. Et moi, je me souviens que quand j'habitais rue des Saint-Pères, je ne chantais pas. Il y avait Zizi Jeanmaire qui était là, il y avait Roland Petit, il y avait Yves Saint-Laurent qui dessinait la revue de Paris, la grande revue qu'a fait Jean-Jacques Debout pour Yves Saint-Laurent et surtout pour Roland Petit. Et moi, ma fille avait 3 mois, le téléphone, c'est Yves Montand. J'ai dit, Yves Montand, qu'est-ce que je fais? Tiens, prends mon bébé, donne-lui le biberon, je réponds à Yves Montand. Non, mais c'est une vie de fou. Ça se passait comme ça à la maison. Alors Yves Montand était content parce que Jean-Jacques avait écrit Madrid, une sublime chanson. Il disait qu'il fallait baisser le ton. Et je disais, oh là là, mais c'est même pas les tonalités, comment on va faire? Voilà, puis Yves Saint-Laurent avec un biberon, vous imaginez? Il disait, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Qu'est-ce que je me suis fait engueuler par Jean-Jacques après? Il m'a dit, mais on fait pas. Et Roland Petit avait dit à Jean-Jacques, ta femme, je suis sûre qu'un jour, ça sera quelqu'un de très important. Et vous voyez, c'était écrit, mais je ne savais pas, moi.
Et c'est en vous voyant à la télévision, dans vos premières chansons, c'est bien Bernard, je crois, que Jean-Luc Godard vous repère, parce qu'il cherche une chanteuse débutante pour tourner dans Masculin-Féminin. Oui, il organise un rendez-vous au bar des théâtres, Avenue Montaigne. Vous êtes face à Daniel Philippaki, et derrière avec un imperméable. Et il vous fait tourner ce film qui, on l'a dit tout à l'heure, a été interdit aux moins de 18 ans. Non pas parce que vous montrez nu, vous n'êtes pas nu, vous avez refusé de vous mettre à poil face à Godard, contrairement à Marlène Jobert, qu'on voit...
Oui, qui fait des allers-retours.
Qu'on voit nu dans le film, je m'en souviens bien. Mais ce film sans le souffre, et ça donne cette interview de l'époque en 66 à la télévision.
Ah, c'était bien.
Chantal Goya, comment vous considérez-vous à présent? Encore comme une chanteuse ou déjà comme une actrice de cinéma?
C'est-à-dire que je suis encore un peu... Enfin, je suis une chanteuse et un tout petit peu une actrice de cinéma, mais pas vraiment.
Et vos parents, est-ce qu'ils ont manifesté des réactions particulières après le film Masculin-Féminin?
Ah, mes parents, ils étaient complètement scandalisés. Et d'abord, ils n'ont jamais voulu reconnaître que c'était leur fille qui tournait une séquence, enfin un film pareil. Je trouve que ce film qui était interdit aux moins de 18 ans, il aurait dû être permis aux moins de 18 ans et interdit aux parents qui eux, étaient complètement affolés.
Ça, c'est formidable.
C'est génial.
Ça.
Et moi, j'avais des affiches dans tout Paris, dans le journal Candide. Ces horribles petites françaises sont-elles vos filles?
Oui.
Je vous dis pas que la nuit, j'avais des copains, j'arrachais tout sur les arbres, c'était cloué dans les arbres.
Candide, c'était un hebdomadaire de droite, là, plutôt.
Ouais, alors ça commençait bien, ma carrière.
Oui.
Je t'ai dit, je voulais être journaliste. Regarde tout ce que je prends dans la figure.
On vous entend là et on voit que vous adhérez parfaitement aux propos, aux discours de Godard.
Je me laissais pas faire, mais en tout cas, j'adhérais absolument.
Vous avez été l'idole de toute une génération d'enfants qui aujourd'hui a bien grandi et qui vous aime toujours autant.
Oh là là. C'était il n'y a pas longtemps.
Là, c'était à Nantes.
Exactement.
Je crois, en avril dernier.
Oui.
En boîte de nuit à 3h du matin.
Le jour de Pâques.
Mais là.
Mais moi, je me demandais, le jour de Pâques, je me disais, ça se trouve, ils vont tous partir à la mer, il n'y aura personne, on ira très vite se coucher. Pas du tout, l'hystérie générale. Mais je me disais, c'est pas possible. Et ils connaissaient tout, hein. Ils attendaient. Et même les gens autour de moi disaient, mais c'est dingue. Je dis, ou ça marchera ou ça marchera plus. Mais ça marchera de la folie. C'est reparti encore plus fort.
Et aujourd'hui, ils sont adultes et ils viennent avec leurs enfants?
Mais oui. C'est eux les plus fous, hein. Moi, j'ai fait un festival il n'y a pas longtemps à Duras, dans le Lot, là-bas. Et Jean-Jacques était là, m'a dit, il y en avait 3000 qui chantaient tout et qui pleuraient quand ils te voyaient. C'est insensé. T'as un public en or, t'as un public qui t'a... C'est-à-dire que moi, j'ai jamais trahi mon public, j'ai toujours été proche d'eux, et Barbara, elle me l'avait dit, tu verras, dans 40 ans, ils seront encore là, seulement ils seront parents. Ça sera eux le plus
gros. C'est Barbara qui vous disait ça?
Barbara était venue dîner à la maison, elle me parlait tout le temps. Moi, je l'adorais, Barbara.
Et vous avez réussi aussi à rester sourde à toutes les modes, et quand on vous voulait vous conseiller de changer de look ou de ça, vous ne faisiez pas un pied de nez, vous n'écoutiez pas?
Non, je n'écoute pas. Moi, je n'écoute pas tout ce qui est négatif, de toute manière. je suis mon idée et ma tête. Je suis une gémeaux, hein. Je suis quelqu'un qui est instinctive. Donc, je suis mon instinct et puis je suis ce que le public me dit, surtout.
Et quand dans les dîners parisiens, on se moquait de votre style ou autre, vous saviez que Sammy Davis Jr., il connaissait par cœur Pandi Panda.
Il est venu dîner chez moi grâce à des amis. Il m'a dit, what you doing? I'm singing Pandi Panda. Et Jean-Jacques, tu racontes des conneries à Pandi Panda. Tu te rends pas compte, c'est Sammy Davis. Je lui dis, alors, moi, je suis Chantal Goya, puis on va pas se prendre la tête. Et là, j'ai chanté Pandi Panda. Et là-dessus, il était au Théâtre des Champs-Élysées pour l'UNICEF. Il a fait arrêter tout l'orchestre. Alors, il y avait tout la jet-set de Paris. En plus de ça, les coincés, les machins qui n'aimaient pas trop.
Les snobinards.
Voilà, ils étaient tous au rendez-vous. Et tout d'un coup, il a dit, maintenant, je vais vous chanter une chanson. Vous allez voir. Il a chanté Pandi Panda. Et j'ai dit, et voilà, il l'a fait.
Et le fils ou la fille de Mick Jagger a appris le français Avec oui. Une de vos chansons, c'est vrai ça?
Non, parce qu'on a des amis très proches et puis ils sont une fois je l'ai vu, il est venu chez eux, bon c'est en privé. Et puis, il était très content de nous rencontrer. Il avait rencontré Jean-Jacques déjà souvent dans des dîners. Et puis, je donnais mon DVD et puis je lui dis, dis-moi ce que vous en pensez. Enfin, dites-moi. Et puis, le petit, il adore. Alors, ça me prouve que mon spectacle, il est
de Mick Jagger.
Voilà, il est planétaire, ce spectacle. Il suffit de le traduire en anglais et puis on aura peut-être des surprises. Hein, avec une petite américaine, peut-être. J'ai failli le faire aux États-Unis, du reste.
Ah oui.
En 87.
Et le fait de jamais avoir de victoire de la musique, tout ça, vous en fichez?
Oh, bonne idée, Légion d'honneur. La seule Légion d'honneur que j'ai reçue, c'est au Liban. Ça, c'est ma plus grande fierté. J'ai chanté pendant 20 ans au Liban, encore il y a 3 ans. Et le président de la République m'a dit, avec tout ce que vous avez fait pour les enfants pendant la guerre que nous avons subi et qui ont chanté toutes vos chansons et que ça leur a donné tellement de bonheur, vous avez toujours été fidèles et vous êtes toujours venus, Marie-Mille, la grande croix de la Légion d'honneur. Alors, vous savez, c'est important. Hein, c'est un grand honneur pour moi.
Vos chansons continuent de plaire aux moins jeunes, comme on le disait il y a quelques secondes. Oui. Mais surtout aux plus jeunes, et comme je suis un grand enfant, je ne résiste pas au plaisir de réécouter tous vos tubes, Chantal.
Oh là là.
Et elle est là, l'émotion, c'est aussi la transmission pour vous, aujourd'hui, pour fêter votre anniversaire. Ce sont des enfants qui
oui,
chantent vos tubes.
Oui, les petits-enfants de mon spectacle.
La relève est assurée,
est-ce
Chantal.
C'est mignon, mais c'est les enfants de ma troupe et c'est une surprise magnifique. La petite Apolline, elle est adorable. Et puis, dernièrement, j'étais chez Disney dans faire une émission de Noël pour une chaîne et j'étais très émue parce que ça me rappelait les années 78 où je chantais cette chanson avec les personnages. Et là, ils étaient tous là avec moi. Le parc était privatisé et je ne vous dis pas, quand Mickey a couru dans mes bras, j'avais l'impression d'avoir, je ne sais pas, 15 ans. Non, c'est pas démodé. Allons chanter avec Mickey, c'était dans un numéro Anne-Mariti, c'était Johnny qui chantait avec Sylvie et Carlos. Et moi, j'avais trouvé la musique géniale, j'avais dit à Jean, qu'est-ce que tu fais de ça? Il me dit, bah, on n'en fera rien. Allez, on va le reprendre pour une chanson, et voilà, c'est parti.
Ça avait été créé à la télévision par ouais. Johnny, Sylvie et Carlos.
Et c'était Johnny qui était un Américain, Sylvie, une fille de la Libération, et Carlos, un Troufion. Alors, c'était la chanson, ça s'appelait Dites-moi, Harry, ce que vous faites ici, cher Harry, à Paris.
Les enfants de la troupe, parce que vous repartez en tournée, enfin, il y a 2 dates encore pour Le Soulier qui vole, au Palais des Congrès, que vous avez rempli 180 fois déjà. C'est près de 2 millions de spectateurs, c'est un record que vous détenez, que vous co-détenez avec Charles Aznavour.
Oui. Un jour, je lui ai dit à Charles, on est tous les deux très forts, hein, on est la même taille déjà, et on est au Palais des Congrès tous les deux. Il m'a dit, continue, hein, parce que je serais peut-être plus là, mais continue le challenge.
En conservant les mêmes décors et les mêmes costumes, en restant fidèle à l'esprit.
Ben, il faut rester, parce que c'est tout le souvenir des grands qui étaient les petits d'hier. Je leur demande, quand j'arrive, où sont les petits d'hier? Il y a une marée humaine qui hurle. Donc, je fais venir mon soulier, et là, tout le monde pleure, parce qu'on retrouve l'enfance, l'âme de l'enfant, ça reste enfouie au fond de nous, malgré les moments difficiles que l'on vit, que l'on voit. Mais quand on a une âme d'enfant qui ressort, c'est tellement important et tellement... voilà, ça fait quelque chose de très fort.
Happy birthday Chantal Goya. Club Grenadine, c'est disponible le 7 octobre prochain. Le Celui qui vole, c'est les 8 et 9 octobre au Palais des Congrès de Paris. Il reste encore quelques places. Le 16 octobre au Forest National de Bruxelles. Et sur la route enchantée, c'est une tournée à partir du 23 octobre.
Je peux vous dire quelque chose? Jean-Jacques, il prépare un grand livre qui sort le 27 octobre, qui s'appelle « Les fantômes, la couleur des fantômes ». Et après-demain, le 3 octobre, il sera à Paris, parce que c'est un fou de Mouloudji. Mouloudji a eu 100 ans cette année, et il fait une fête pour Mouloudji. C'est lui qui a tout fait avec des amis. Vous voyez, ça se fait en petit comité, mais c'est du Jean-Jacques debout. Voilà. Ça sera en face de la cigale, au phonogramme.
Pour rendre hommage à Mouloudji, ouais. Qui a eu 100 ans demain.
Ben exactement.
Vous restez avec nous, Chantal, on va passer à table.
Oui, ah ben là, avec plaisir, ça sent bon. Hein,
ça sent hyper bon, les cèpes. D'ici là, Zoé et Bruno, j'étais à ça.
Oh là là, génial.
J'étais à ça.
J'adore cet endroit.
Ouais, c'est très sympa.
Muchas gracias.
Waouh, tu parles super bien espagnol.
Bon, calme-toi, j'ai juste dit muchas gracias.
Ne te dénigre pas. C'est très dur de parler une langue étrangère.
Oui,
Excuse me. Pouvez-vous m'indiquer la route vers le lac, s'il vous plaît?
Oh, yes, of course. The lac. Oh, yes, it's easy. You go to the there.
Vous pouvez parler français, je parle très bien le français.
Oh, non, non, don't worry. Ne vous inquiétez pas. I speak very good English. So, you see the tree? You take the tree. You go, you go, you go, you go, you go. You go around the circle. Two, and then the circle again, and then you see the lake, you see the water, and then you're there.
Vous pouvez me répéter ça, s'il vous plaît?
Yes. So, je sais pas pourquoi elle comprenait rien.
Mais parce que tu parles pas anglais, ma pauvre.
Ben si, hein, j'ai fait un stage avec mon compte formation, donc...
Nunuche.
And then you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, and then you go, and then you're there. OK?
OK, super. Super. Thank you.
Have a nice day.
Merci.
My pleasure. Bye bye.
Bye.
Là, elle se retourne, elle alpague un mec, elle lui pose exactement la même question.
Oh yes, of course. You just go straight there, turn on the left, and just 5 minute walk.
Okay, thank you.
Sorry, I don't understand. You told her to go to the lake?
Yeah, because she just
Because I just told you how to go to the... you don't understand my explanation?
I asked for the lake, and she said... The lake is by the water.
You mock me?
She's very weird.
You mock me? And you too, you mock me? Yes, yes, I see you mock me. It's funny, ha ha ha, she doesn't speak English, ha ha ha, so funny. Mais moi aussi, je peux rire de toi dans une langue étrangère que tu comprends pas, espèce d'idiote.
J'ai très bien compris tes insultes. Je parle très bien le français.
Eh ben, si tu parles bien le français, le lac, il est là-bas, tout droit. Bonne nuit.
Merci.
Hasta luego. C'est ça.
Au revoir.
Et muchacha. Hein?
Yes.
Beso, beso.
God.
Muchas gracias, hermana mía. Eres muy divertida.
Même ça, j'ai pas compris. Oh, j'étais à ça de parler une langue étrangère.
Ah. Bienvenue à la table de C'est à vous, chère Chantal, aux côtés d'Olivia de Lamberterie. On est ravis de vous recevoir ce soir.
Je suis très heureuse d'être là.
Critique littéraire, couronnée par le prix Renaudot de l'essai pour votre précédent ouvrage, avec toutes mes sympathies que j'avais déjà beaucoup aimées, qui a été un succès de librairie. Là, on vous reçoit ce soir pour comment... font les gens. On en parle longuement dans un instant, mais les cassolettes de Louis sont arrivées, ainsi que Bertrand Chamerois. Donc, priorité aux cèpes. Ce sont bien des cèpes et des gnocchis. Parce qu'à partir de maintenant, tout le monde dira gnocchi, c'est un point, c'est tout. N'est-ce pas, Louis?
Les fameux. Exactement.
On fait la révolution.
Ouais. Tout le monde sera ridicule.
À fond.
Donc, Louis.
Donc, bonsoir. Je vous ai préparé du coup une cassolette de gnocchi, cèpe, figue.
Non, c'est plus
plus. Ah, gnocchi. J'oublie déjà.
Oui.
Un petit condiment à la figue, un petit jus de viande et vous avez dessus un crispy de lard. Voilà. Pour
et Chantal s'est jeté dessus.
Moi, j'adore les cèpes. Je suis une malade des cèpes.
Ouais, voilà. Bah, allez-y, je vous en prie, chère Chantal. Merci beaucoup.
Bon appétit.
Louis. À demain.
Merci. Et Babette va nous dire.
Oui.
Les trois raisons d'aimer. Comment font les gens ?
D'Olivia Lamberterie. Chacun de nous est chargé d'expliquer les raisons pour lesquelles on a aimé ce qui amène notre invité à la table du dîner de C'est à vous. Cette fois-ci, c'est ce roman « Comment font les gens ?». La première des raisons pour laquelle j'ai aimé, c'est parce que vous réussissez un tour de force de faire de cette journée de la vie d'une femme, une Parisienne de 54 ans, un récit aussi palpitant qu'un épisode de 24 heures. Mais là, il ne s'agit pas de sauver le monde façon Jack Bauer, mais juste de tenir le coup jusqu'au dîner du soir, alors que tout va mal. Entre autres péripéties, une nouvelle chef à la bouche très méchante, qui demande à Anna, votre héroïne, d'éditer une influenceuse de moins de 30 ans qui veut écrire sur le côté positif et moderne de la ménopause. Et ça, c'est très agaçant. Les filles qui grandissent trop vite, ou une mère qui s'étiole, ou encore un mari qui ne semble ne plus rien comprendre à sa femme. Et Anna encaisse, trouve le temps pour tout le monde, sauf pour elle, parce que c'est ce qu'on lui a appris à faire. La deuxième raison, c'est parce que c'est un livre qui fait autant de bien qu'une conversation entre amis. Des amis qui sont là, indéfectible soutien d'Anna, dotée d'un sens de l'humour qui rend quand même la vie beaucoup plus légère, qui rit quand elle raconte que leurs paupières tombent tellement que c'est même pas la peine d'envisager la pose de fossile et qu'au réveil sans maquillage, elle ressemble plus à leur père qu'à leur mère. La troisième, vous nous déculpabilisez. On est toutes comme Anna, très larguée, à des années-lumière de ces mères parfaites qui nourrissent leurs enfants de légumes oubliés et font flamber le cours du bio et qui nous privent de toute assurance possible. Comme Anna, on ne prend pas le temps de savourer. On ne sait même plus si on est heureuse ou pas, avec le sentiment, c'est une des très belles phrases du livre, que notre âme est morte. Comment font les gens ? Excellente question, ben, ils se débrouillent. comme Anna, qui dit tout ce qui lui passe par la tête, évoque des souvenirs enfouis douloureux qui, avec le temps, pèsent de plus en plus, au point de se dire qu'on voudrait vieillir vite pour apaiser les tourments, que la vie nous laisse un peu tranquille, vieillir, mais le plus tard possible quand même.
Voilà, c'est dit avec tout le vécu d'Anne-Elisabeth. C'est vrai.
Ben oui, exactement. Ben oui, parce que 5 ans, c'est un 50 ans, pas 5 ans. 50 ans, c'est un sacré tournant. Vous en parlez drôlement bien, Olivia.
Oh, écoutez, ça me fait très plaisir ce que vous dites. Et vous pourriez être une amie d'Anna, je pense.
J'adorerais être une amie d'Anna. Non,
rendez-vous au café avec Anna.
Et lui dire, tiens, on se ferait pas un gin tonic à 14h30.
Oui, ce qui est un peu tôt, mais ce qui parfois peut alléger un tout petit peu la journée. Non, je voulais vraiment faire un livre sur nous, sur mes amis, sur les filles avec qui je travaille au journal, parce que je les trouvais formidables. Et je trouve que cette génération de 50 ans, elle est assez maltraitée. Alors, je ne parle même pas de Yann Moix qui raconte des horreurs, mais...
Oui, qui dit qu'à partir de 50 ans, on est dans la zone Moix, on n'intéresse plus personne.
Exactement. Donc, elle est assez invisible. Et puis, elle est coincée entre deux générations qui, elles, sont très admirables. Les féministes historiques qui se sont battues pour la contraception, l'avortement. Les jeunes féministes aujourd'hui, très radicales. Et nous, on nous désigne comme un peu le ventre mou du féminisme. Et je ne suis pas du tout d'accord, parce que je trouve que nous, on a été la première génération à expérimenter, à éprouver toutes les libertés. J'ai l'impression que depuis qu'on est né, on nous dit il faut être plus forte que les garçons, il faut travailler plus que les garçons si vous voulez réussir. Si vous voulez réussir dans l'entreprise, il faut rester plus tard. Et puis évidemment, il faut quand même avoir des enfants, continuer à faire tout ce que faisaient nos mères. Ouais. Et qu'on n'avait jamais le droit de se plaindre, parce que si on se plaignait, on nous disait « Ah, bah oui, mais enfin, vous l'avez bien voulu, hein, ouais. C'est ce que vous êtes libre, vous avez le droit de tout faire. » Donc je voulais un peu venger cette génération avec humour, parce que moi, je suis critique littéraire et que je reçois, je crois, 50 livres par jour. Donc j'ai absolument tous les malheurs du monde sur avec toutes les couvertures de toutes les couleurs. Et je voulais faire un livre drôle.
C'est
vraiment
le cas.
C'était très important. Traiter de choses sérieuses, mais de manière drôle.
En même temps, vous parlez de cette génération, mais les questions que vous évoquez traversent un grand nombre de générations. Parce que regardez, sur la question du partage des tâches à la maison, il en était question de cette façon dans un sujet du journal télévisé il y a 43 ans, en 1979, avec un type vraiment rétif aux tâches domestiques. Regardez.
Le travail de la femme, c'est également le problème du mari. Une famille où les deux parents s'occupent des enfants et se partagent les tâches ménagères parvient plus facilement à un équilibre.
Oui, actuellement, je vous dis, j'essaie de rentrer plus tôt. Je rentre déjà plus tôt, mais je sens que ce n'est pas moi qui arrange tout.
Qui chez vous fait la cuisine?
Alors là, je suis très franc. Je veux dire, moi, je ne sais pas faire la cuisine, je n'aime pas ça.
Qui fait le ménage?
C'est pas moi non plus.
Qui engage les jeunes filles au père?
C'est ma femme, mais quand même, j'aime bien voir, quand même.
Voilà, avec les questions de Dominique Torres et les réponses. Mais ça pourrait être un reportage d'aujourd'hui, ça.
Oui, on a peut-être quand même un peu progressé. J'ai l'impression chez les jeunes garçons, ils font quand même beaucoup plus de choses. Après, c'est très drôle quand on demande aux hommes ce qu'ils font. Ils jouent avec les enfants. Ils aiment jouer.
Oui. Tous les trucs sympas.
Exactement.
On passe du temps.
Oui, voilà. Vous jouez avec vos enfants.
Qui vénère. Je suis tout énervée, là, en bout de temps. Non, je suis toute énervée. Oui, il faut les trucs sympas. On voit bien que je suis un cran, mais vous m'avez vengé dans ce livre. Oui. Donc, Patrick, je t'ai coupé. Pardon.
Non, c'est bon.
Ah bon?
Oui.
Mais c'est pas du tout un livre contre les hommes.
Non, pas du tout.
Ni d'ailleurs contre les générations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de l'époque est vraiment à Fight Club. On essaye de monter les générations, les gens contre les autres. Et moi, je pense que c'est vraiment très important que les trois générations de féministes luttent avec ce qui arrive d'Italie, d'Amérique, le droit à l'avortement contesté et interdit. Il faut vraiment qu'on se batte ensemble.
Vous parlez aussi du vieillissement et des demandes contradictoires qui sont faites quelquefois aux femmes de plus de 50 ans. Ne vieillissez pas, n'ayez pas de cheveux blancs, mais restez naturels, surtout. Ne faites pas de chirurgie. On se souvient d'une courte séquence où une journaliste canadienne, Lisa Laflamme, était licenciée à cause de ses cheveux blancs.
On On June 29th, I was informed that Bell Media made a, quote, business decision to end my contract, bringing to a sudden close my long career with CTV News. I was blindsided and am still shocked and saddened by Bell Media's decision. At 58, I still thought I'd have a lot more time to tell more of the stories that impact our daily lives. Instead, I leave CTV humbled by the people who put their faith in me to tell their story.
Les filles d'Anna dans votre livre sont celles qui se remettent en cause, et pas qu'un peu, mm-hmm. le patriarcat. Vous pensez que votre génération, entre les deux, que vous décriviez très bien tout à l'heure, a été trop polie quelquefois ?
Oui, je crois qu'on a demandé les choses très gentiment, notamment dans l'entreprise. On oublie qu'on s'est beaucoup battu pour l'égalité des salaires. Donc on a demandé très gentiment, bonjour, est-ce que je pourrais avoir le même salaire que mes collègues masculins ? Force est de constater qu'on n'a pas très bien réussi. Donc peut-être que les jeunes filles d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus véhémentes, elles vont réussir. Et puis moi, je les remercie aussi pour plein de choses. J'ai l'impression que notre génération à nous, tout ce qui nous est arrivé d'un peu désagréable, les mains aux fesses, les trucs qu'on vivait dans le métro, bon, moi, on passait notre temps entre amis à se dire « c'est pas grave ». Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé Pénélope Bagieux, génération d'en dessous, et elle me parle d'un truc dans le métro, d'un gars qui l'avait coincé dans un photomaton, et elle me dit ce mot de micro-agression. Et moi, je ne connaissais pas ce mot. Et je me suis dit « ah, c'était donc ça ». Et je trouve que... J'espère que je n'ai pas de fille, contrairement à mon héroïne, mais j'ai des fils et j'ai maintenant une petite fille. Et j'espère que elle pourra se défendre et qu'elle n'aura pas peur dans la rue.
Et qu'elle ne balayera pas ça en disant « c'est
exactement,
pas grave.
Et qu'on ne l'obligera pas. Vous parliez aussi des injonctions physiques. C'est vraiment un truc très bizarre. On vous dit « non, 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 la chirurgie esthétique, c'est vulgaire, il ne faut pas en faire. » Et dès qu'une actrice en fait, elle est vraiment mais vilipendée sur les réseaux sociaux comme si elle avait piqué le sac d'une vieille dame dans la rue. Mais si vous n'en faites pas, ça ne va pas non plus. Ouais. Donc en fait, il faudrait faire de la chirurgie esthétique qui ne se voit pas.
Ouais.
Je ne sais pas si ça vaut la peine.
Bah, on compte sur la science quand même.
Oui, bah oui, j'ai jamais rien fait, vu mon âge.
Mais vous êtes splendide.
Non, bah, c'est gentil. Bah,
comment fait Chantal pour moi, avoir l'air jeune? Comment font les gens? Bah, c'est le titre du livre d'Olivia Lamberteri que j'ai aimé. Je crois que ça, pour le coup,
oh,
c'était...
Merci beaucoup, beaucoup.
C'était assez clair. On conclut cette émission par les actualités de Bertrand, que j'aime aussi, Bertrand. Trois raisons d'aimer Bertrand. Oh, il y en a plus. Jingle.
Bonsoir à la une de ce 28 septembre, c'est la rose, très rose révélation de la journée. Elle a fait l'ouverture, la rose, oui, je ne prononce pas les G quand je dis grosse. Elle a fait l'ouverture du 13h de TF1 ce midi.
On commence ce journal avec cette information qui va vous surprendre.
Et vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez apprendre.
On nous a rabâché depuis tout petit qu'il faut faire son lit tous les matins. Eh bien non, une étude l'affirme aujourd'hui, c'est une mauvaise habitude.
Alors là, c'est un pan entier de notre histoire qui vient de s'effondrer en direct. Je suis sous le choc. Une cellule de crise vient d'être ouverte. Vous appelez si vous êtes évidemment déboussolé. Nous y reviendrons dans les prochaines heures. Dans le reste de l'actualité, l'ouragan Yann, la guerre, qu'est-ce qu'il y a, Patrick ?
On ne sait pas pourquoi, c'est une mauvaise habitude.
On va le savoir là.
Vous le saurez demain. Mais dans le reste de l'actualité, il y a quand même...
J'espère que mes enfants ne regardent pas. Là.
L'ouragan Yann, la guerre, l'inflation, la précarité. Oui, ok, mais la question qui a beaucoup fait parler ces dernières 24 heures, c'est celle-ci. Peut-on jouer au foot avec des députés du Rassemblement National ? Mathieu Béliard en parlait tout à l'heure dans le 5 sur 5. En ce moment même, où c'est peut-être fini, se tenait le match de foot caritatif de l'équipe de France des parlementaires, dont DRN. Match couvert en direct sur les chaînes info qui ont posé des questions qu'on n'aurait pas imaginé être posées un jour à la télé.
Personne de gauche avec vous alors ?
Vraisemblablement, on a Monsieur Davy qui est là,
Vous allez lui faire des passes. Si un joueur du Rassemblement National claque un but ce soir, vous lui sautez dans les bras, vous le checkez sans problème.
Et on sent que les chaînes info n'ont pas l'habitude de couvrir des événements, des matchs en direct.
Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au football ou pas ?
Oui, puisque c'est un match de foot, Laurence. D'autres exemples ?
Ouais, vous êtes en short, chaussettes et crampons là.
Ce qui est plutôt étonnant pour un match de foot. Mais bon, et quand foot et politique se rencontrent, c'est sympa parce que ça permet aux députés de montrer que derrière le costume, il y a un cœur d'humoriste qui bat.
On a un peu triché, on a récupéré Nicolas Douchez qui était un ancien footballeur pro.
Ah oui, ça va vous aider.
Et donc on va essayer de limiter l'addition, on va essayer d'éviter que ça fasse 49-3 à la fin du match.
Oh, Vous l'avez ?
Bah oui.
Rapport à la politique. Retour à l'actualité, je le disais, l'ouragan Yann, la guerre, l'inflation, le lit qu'il ne faut pas faire et la précarité. Non mais je déconne, on s'en fout, l'actu c'est ça.
En tout cas, vous n'avez pas de col roulé, vous.
Je vois à quoi vous faites allusion.
Oui, c'est de bonne guerre et c'est assez cocasse. Car oui, c'est l'info qui a tourné en boucle toute la journée.
Midi, politique, on va parler col roulé.
Bonjour, col roulé.
Et peut-être bientôt les pyjamas.
Je regarde d'abord comment vous êtes habillé. Pas de col roulé, pas de doudoune.
Bon, vous voyez que j'ai sorti le pull col roulé aujourd'hui.
Mais aucun d'entre vous n'a mis un col roulé.
Je viendrai avec mon bonnet de nuit. Et mes grosses chaussettes.
Le dossier du col roulé, The Total Make Gates, qui, comme on l'appelle en Grande-Bretagne, qui a carrément traversé la Manche. Tu vois, petit, ça c'est une cravate. Regarde-la bien, car dans un mois, il n'y en aura plus. C'est officiel, nous vivons dans un univers parallèle. Ces questions ont vraiment été posées en direct au cours d'interviews politiques.
Vous n'avez pas adopté le col roulé, là, ce matin.
À 19 degrés, je pense qu'on peut supporter la cravate.
Bruno Le Maire a annoncé qu'il ne mettrait plus de col roulé. Est-ce que vous avez prévu les pantalons fourrés ?
J'ai porté un col roulé toute la journée hier, parce que je suis dans un vieux bâtiment ministériel qui n'était pas encore chauffé, et donc il faisait 16.
Oui, bah alors bon, moi j'ai zappé sur BFM Business, au bout d'un moment, dans l'espoir d'entendre parler d'autres choses, style Nasdaq et fusion-acquisition, mais non, Gabriel Attal était l'invité de la mode.
Nous, politiques, on a évidemment un devoir d'exemplarité. Voilà.
Le col roulé.
Col roulé ou pas col roulé ou autre chose.
Donc pas de team col roulé à Bercy.
Mais évidemment, je mettrai un... S'il le faut...
S'il le faut.
Ce n'est pas obligé. Si Bruno Le Maire vous le demande.
Je le ferai parce que c'est mon patron, mais je n'ai pas très envie. Mais ce qui est bien avec ce dossier col roulé, c'est qu'au-delà d'occulter le reste de l'actualité, il permet d'entendre des phrases improbables. Il y a deux jours. S'il y a deux jours, je vous avais dit qu'on entendrait Gilles Legendre détailler son dressing sur France Info. Vous m'auriez pas cru. Et pourtant...
J'ai pas de col roulé parce que je viens vous rendre visite et que je mets une cravate, mais je peux très bien avoir un col roulé ou une doudoune. Ça m'arrive d'avoir une doudoune à l'Assemblée nationale.
Une doudoune. Alors je sens que ça vous plaît, bande de fashionistas. Continuons d'explorer le placard de nos politiques.
Je suis plus souhaite à capuche que col roulé. Je pense que j'aurai l'air de la position.
L'affaire du col roulé. Restez avec nous, on parle de l'affaire du col roulé dans une seconde. Mais on va rester, ce serait dommage de ne pas en savoir plus. C'est Carl Olive. Quelle est la position de Carl Olive sur le col roulé ? Est-il en accord avec la laine mélangée ou préfère-t-il la viscose ?
Mais vous savez, moi je peux pas mettre de col roulé, je transpire assez rapidement, voyez-vous.
Donc je répète les tendances. Cet hiver 2022 à l'Élysée, si la maison Le Maire opte pour le classique col roulé, la maison Legendre préfère le réconfort de la doudoune. Quant à la maison Lescure, elle portera l'indémodable et relax sweat à capuche. Mais une question reste en suspens, dans quelle tenue s'est présentée Elisabeth Borne aujourd'hui pour son point presse sur l'hydrogène ?
Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil régional, cher Xavier Bertrand.
C'est une doudoune. Ah oui, en doudoune et en sabot, en doudoune, ou à moins qu'il s'agisse d'une polaire. Je mène encore l'enquête. On pensait avoir atteint les pâquerettes avec les questions col roulé dans les matinales. On a trouvé mieux la doudoune de la première ministre qui fait parler, que dis-je, qui fait débat.
On a vu aussi Elisabeth Borne à l'intérieur avec une doudoune, on l'a vu tout à l'heure, mais elle était en déplacement. C'est pas la même doudoune d'ailleurs qu'elle c'est porte sûr. Aujourd'hui.
Je pense que les cartes sont différentes, mais c'est peut-être la même doudoune.
Était-ce la même doudoune qu'hier ou non ? Voilà un dossier épineux, l'enquête nous le dira. Le mieux dans ces dossiers, c'est d'interroger des proches ou des présumés proches.
Je pense qu'Elisabeth Borne, la connaissant, enfin là je l'ai jamais rencontrée, mais le connaissant à peu près comment elle est, je pense qu'elle est sincèrement, elle est capable de baisser le chauffage dans son bureau et du coup de mettre une doudoune.
Je connais un peu Elisabeth Borne et elle est capable de porter une doudoune. Cette phrase existe, vraiment. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On me dit que non.
Et vous avez le chauffage individuel au gaz ou électrique ou c'est un chauffage collectif ? Au gaz. Chauffage individuel.
Je me renseigne parce que je viens de déménager et j'avoue, j'ai pas encore allumé mon chauffage dans mon appartement.
Vous savez pas si vous avez un chauffage collectif ou un chauffage individuel ?
Je pense que c'est collectif. Enfin, je sais pas.
Oui, mais en même temps, on s'en fout. Hein. Le 28 septembre, on débat de la manière dont se chauffe Eugénie Bastier sur CNews et Éric Nolot dans tout ça parce qu'on n'a pas la réponse. Eh bien, Éric Nolot, il n'a pas de chauffage.
Mais non. Il n'y a pas de chauffage chez moi. Donc
pourquoi il n'y a pas de chauffage chez vous ?
Parce que c'est un chauffage au sol, il faudrait tout casser pour le rétablir. Il est en panne. Donc j'ai pas de chauffage depuis des années.
Mais il y a combien chez vous l'hiver ? Il y a 12 degrés.
C'est un petit peu plus quand même.
14 degrés ?
Ouais, ça doit.
Sans chauffage, 14 degrés.
Mais vous couvrez, vous couvrez.
Bon, oui, un petit amarre sur les épaules et ça fait l'affaire. En une journée, on a donc découvert le dressing des ministres, vu le maire en col roulé, Elisabeth Borne en doudoune, et nous ne sommes même pas en octobre. J'ai très peur de ce qui nous attend en termes de com pour le mois de décembre, quand ça caillera vraiment. Faisons un bond dans le temps. Direction le mois de décembre 2022. Image BFM TV, vous voyez ici la sortie du Conseil des ministres qui vient tout juste de se terminer. Conseil dont le porte-parole Olivier Véran s'apprête à faire le compte-rendu.
Mesdames et messieurs, tout d'abord, un petit mot pour vous dire que je suis très heureux de vous retrouver. Le Conseil des ministres s'est donc tenu ce matin. Il a été l'occasion, évidemment, d'aborder les priorités des Français.
Ouais, et oui, vous l'aurez vu ici en premier, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça se produise vraiment. On referme ces actualités avec une bonne nouvelle, puisqu'on a parlé un peu de nostalgie avec les chansons de Chantal. Mais vous vous souvenez de Kiki, Kiki le Kiki de tous les Kiki.
Ah bah bien sûr.
Bah bonne nouvelle, on l'a retrouvée.
Ah bon?
Elle fait également partie de l'équipe de 7 astronautes présentés par l'Agence spatiale européenne.
Je vois pas pourquoi vous riez, parce qu'elle est très bien cette coupe de cheveux, et je vais l'adopter à partir de maintenant. Avec un col roulé, évidemment.
Bonne soirée. Bonsoir, Charmeroy, les actualités. Bertrand, c'est tous les soirs dans C'est à vous. Merci, cher Chantal. Merci Olivia, d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Tout de suite, sur France 5, la grande librairie, Augustin Trapenard reçoit Amélie Nothomb et sa sœur Juliette pour le livre des sœurs, forcément. Et si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous suivre tous les soirs, si nombreux. On sera là demain au rendez-vous à 19h en direct. D'ici là, on vous embrasse. Enfin, on vous embrasse. Et d'ici là, bonne nuit.